ready?
Est-ce que nous sommes prêts? Bonjour à tous. Une longue journée aujourd'hui. Olivier Crépin-Leblond prend la parole. Nous allons travailler donc avec le groupe Atlar Yana et sur la responsabilité de l'ICANN. Nous sommes déjà réunis à plusieurs reprises cette semaine. Nous venons d'avoir une réunion avec le GAC. Nous avons entendu quelques-uns des points de vue du GAC. Et je pense que maintenant, la première chose que nous devrions faire, c'est d'avoir une mise à jour concernant les dernières discussions. Je ne sais pas si Alan a eu une dernière précision concernant la liste de diffusion du CG responsabilité. Alan, je n'ai aucune idée de ce qui se passe sur la liste de diffusion. Il y a eu des sessions informelles, il y a eu un groupe de travail numéro 2 au cours du déjeuner. Donc je ne sais pas, mais je n'ai, d'après ce que je sais, rien de grave n'est arrivé et notre situation est toujours la même et je suis optimiste. Parler avec Larry Strickling, qui aurait entendu si parler de choses de graves si ça avait été le cas, il n'a rien signalé. Donc dans ce sens-là, je pense que tout va relativement bien. Nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous pensiez faire, puisqu'il n'y a rien de nouveau. Une proposition ou deux. Je ne voudrais pas qu'on ait de nouveau des gens qui disent la même chose, choses qu'ils ont déjà dit, parce que ou on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec eux. C'est tout. Ils veulent, mais c'est mon avis. Donc j'aimerais qu'on parle. On part du principe que le modèle d'adhésion n'est pas le modèle choisi. À ce moment-là, j'aimerais qu'on parle de ce qui nous reste et des variations qui existent par rapport à ce qu'est notre possibilité. Et je voudrais savoir si nous devons prendre une décision là-dessus. Je serais ravie de donner mon avis avec vous. Nous avons 45 minutes, oui. Donc, si vous voulez, je vous donnerai mon avis pendant ces 45 minutes. Merci beaucoup, Alan. Cette session était due pour être une mise à jour, mais comme il n'y a pas de, il n'y a aucune mise à jour à réaliser, je vais donner la parole aux personnes qui veulent prendre la parole. Et si vous êtes d'accord, on va discuter du modèle. Donc, nous allons commencer par Sébastien Bachelet qui veut prendre la parole. Sébastien, vous avez la parole. Merci beaucoup. Sébastien Bachelet prend la parole. Je pense qu'il y a deux thèmes que nous devrions débattre. Il n'y a pas d'opposition concernant le test de stress numéro 18 et la question du calendrier. Et j'aimerais savoir quel est notre et comment on va finir notre prise de décision au niveau d'Atlarge sur cette question. Merci. Le test de stress numéro 18 est un bon sujet, je pense. Très bien. Maintenant, nous donnons la parole à Garth Brown. Garth Brown, président de Neuralo. Je voudrais discuter de la question de confiance du consommateur et la promotion de la confiance du consommateur. Merci, Garth. Ensuite, nous avons Sean. Est-ce que je pourrais demander ici une précision en ce qui concerne la responsabilité et les changements de statut? Et c'est du changement de statut? Non, c'est à propos de tout ce qui est associé à la responsabilité. Mais les seuls aspects qui sont actuellement sur place hein, pour la discussion, c'est tout ce qui concerne le statut. Oui. C'est ce dont je vous voulais parler. Garth dit, je voudrais qu'on s'assure que tout a été bien compris. Bien, dit Alan, ok. Merci. Sean, vous avez la parole. Sean prend la parole. Sean Otici. D'abord, je voudrais dire que j'ai constaté que les interactions, toutes les opportunités que nous avons eues de parler avec les SO et les conseils et les membres du conseil qui ont fait aux différentes actions et quand on leur demande leur position et on voit qu'il y a un niveau de consensus concernant le processus qui a été défini par le CWG, par le CCWG. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Ensuite, une des choses que je voudrais dire et que Sébastien a dit, Sébastien l'a dit. Et l'autre chose, j'aimerais qu'on regarde les documents sur les concernant les aspects des hommes, des droits humains et le processus de responsabilité ou la proposition sur les droits humains. Sean, est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? On n'a pas bien compris. Les droits humains. OK, droits humains. Robert Wilkinson, vous avez la parole. C'est votre micro. Robert Wilkinson, je voulais parler de la question du suivi sur donc la confiance des consommateurs et j'aimerais savoir quand est-ce qu'on va en parler. Bien. Donc, la confiance des consommateurs, d'accord, dit Olivier. Donc, nous avons l'analyse de simulation de crise numéro 18, les différents modèles, la promotion de la confiance des consommateurs, la révocation des membres individuels du Conseil et les droits de l'homme. Donc, nous avons 5 thèmes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, Sébastien Boll, l'ordre du jour pour donc présenter une solution. Et comment est-ce que nous allons être intégrés dans cette solution? Quand est-ce que ça se fait? Et lorsque cela sera fait, que fera le NTIA, le Congrès américain, etc.? Quand est-ce qu'il faut qu'on soit prêt? Et est-ce qu'on a besoin d'une clique? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour qu'il n'y ait pas une autre période de commentaires publics, etc.? Merci beaucoup, Sébastien. Olivier reprend la parole. Donc, nous avons 6 thèmes. Ça va être un peu compliqué. Là, concerne le processus. Je ne sais pas si cette discussion pourra avoir lieu tout de suite. Je crois qu'il faut qu'on fasse une priorité. Est-ce que vous voulez qu'on commence par l'exercice de simulation de crise numéro... Il y a eu une question du GAG. Dans les recommandations concernant l'exercice de simulation de crise numéro 18. On ne dit nulle part ce que le GAC voulait dans ce sens. Aimer qu'on fasse ce commentaire. Le prélude à cet exercice de simulation dit est-ce que le GAC va changer sa définition pour passer du consensus à majorité. Dans le cadre des statuts, il est dit que c'est seulement si le GAC donne des conseils basés sur le consensus que le conseil doit passer à sa phase de négociation. Le consensus doit être trouvé au principe 47, un des principes. Le GAC choisit de redéfinir ses principes, principe 47, pour passer à un système de majorité où si Olivier rentre dans la salle et dit « oui, nous allons nous mettre tous d'accord ou nous sommes tous d'accord. Cela va changer. C'est une question de consensus et cela répond à la définition d'avis formel. Avis formel. Donc, bien qu'il y ait une référence concernant le changement de méthodologie par le GAC, mais ce n'est pas dans les statuts. Ça a été proposé au cours de ces derniers jours, lors de la réunion de Los Angeles, par quelqu'un, mais on n'en a plus reparlé. Donc, personne ne leur dit de changer leurs règles ou comment changer leurs règles ou qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils changent leurs règles de travail. Ce que l'on dit, c'est que si les règles restent telles qu'elles sont, hein, si leur processus reste dit, ils ne peuvent pas faire appel à un conseil, ils ne peuvent pas faire appel formel. À ce moment-là, il faut redéfinir ce qu'on appelle un consensus. Olivier prend la parole. Tout dépend de la définition de que le GAC a. Actuellement, la définition du consensus du GAC est un consensus unanime. Oui, s'il y a une objection, ce n'est plus un consensus. Alors, ce n'est pas un accord unanime. C'est quelqu'un propose quelque chose et personne n'est contre. Voilà. C'est la définition utilisée par les Nations Unies et c'est la définition que... Alors, c'est correct, oui. Donc, la question est... Olivier reprend la parole. Je pense que ce n'est pas un problème parce que si le GAC veut modifier sa définition, le GAC va avoir besoin d'un consensus aussi. Non, il y a une autre manière de changer. Alain Greenberg prend la parole. Le principe 47 qui dit que quelqu'un dit quelque chose et si personne n'est contre, ça donne un consensus. C'est comme ça que le GAC arrive à un consensus pour ses recommandations ou pour ses prises de décision. Comment est-ce que le GAC modifie ses principes? Et cela se fait par une règle de majorité, par majorité, à 2 réunions consécutives. Ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous avez une majorité qui, au cours de deux réunions consécutives, ne parvient pas à un accord, à ce moment-là, ce sera fait. Merci beaucoup, Alan. Sean. Sean prend la parole. Alan, je pense que vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine du GAC, donc je vais vous poser une question liée à la question du test de simulation de crise 18. Vous avez dit que la tentative de ce test de simulation est de ne pas demander au GAC comment il concerne la manière de parvenir au consensus du GAC. Donc actuellement, le CCWG veut parvenir à un consensus, mais on a cet exercice de simulation de crise 18. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Soyez plus et expliquez cela en anglais simple, comme ça je peux vous le comprendre. Oui, c'est une intelligente. La réponse, c'est que, en fait, je n'en sais trop rien. Nous, on nous a dit que une exigence qui n'est pas écrite, un prérequis du NTIA, non écrit mais déclaré clairement. Donc, cela a un impact. Si le GAC peut décider sans changer sa définition du consensus, ce qui serait un peu révolutionnaire, il faut le dire, dans le système des Nations Unies, de la changer, ce serait révolutionnaire. Si le GAC décide, de quelque chose, recommandation, parce qu'un petit groupe de gens a déclaré que ce serait une recommandation, parce que si vous lisez le communiqué du GAC maintenant, il y a certaines choses qui sont des recommandations et d'autres choses qui ont des noms qui sont plus faibles, mais qui ne sont pas des recommandations. Donc, si le GAC choisit d'utiliser ces recommandations plus faibles, recommandations, ils peuvent maintenir notre orientation et paralyser s'ils choisissent de faire ça. Donc, c'est le seul impact réel. Mais votre question est très bonne, mais c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que les gens ont établi certaines règles, non pas par écrit, mais oralement. Bien, Olivier dit qu'après la réunion avec le GAC, il a eu quelques explications. Comme vous le dites, c'est une exigence, un prérequis pour que cela soit accepté. Et en ce qui nous concerne, et vous avez remarqué la façon dont j'ai décrit mon propre point de vue concernant ALAC et non pas concernant l'AIN, dernièrement, il va y avoir une question interne qui va avoir lieu du GAC parce que nous ne pouvons pas et nous diviser, être divisés au niveau de l'exercice de simulation 18 parce qu'on va avoir... Si on veut que la transition ait lieu et que la responsabilité ou la redevabilité soit appliquée, cela est nécessaire. De la même manière que, et c'est, on avait dit que si on n'allait pas marcher avec le pays, ça n'allait pas être possible. Donc, si on ne tient pas compte de l'NTIA, ça ne va pas être possible. Donc, je demande mon point de vue et de dire, laissons les choses telles qu'elles sont. Nous avons maintenant Sébastien Bachelet et Holly Reich. Hailey me regarde d'un air découragé. Sébastien Bachelet, vous avez la parole. Merci. Peut-être vous vous souvenez que dimanche après-midi, il y a eu une session sur la transition des fonctions IANA. Et cette session comprenait une présentation de Ira Magaziner, une table ronde avec quatre hommes en noir sur donc la scène et des personnes qui travaillaient sur le Sénat ou pour la Chambre des représentants aux États-Unis. Et je voudrais citer ce qu'un d'entre eux a dit à propos d'un donateur. Il a dit il voulait voir dans les statuts que les recommandations du GAC consensus seraient considérées par le Conseil. Et dans une autre partie de la discussion, les mêmes personnes ont dit clairement que nous sommes responsables de la supervision de l'NTIA. Donc, poser la question suivante. Si on renonce au NTIA, si l'on fait ce que l'NTIA dit, on aura le dernier mot. Et ils ont dit oui, mais non. D'où ça vient? Tout cela, ça vient du Congrès. Le NTIA a accordé, et je pense qu'ils doivent le faire. C'est une demande du gouvernement américain et du Congrès. Et j'ai aussi un autre commentaire à vous faire. Il disait, allez voir le GAC, discutez avec eux et ne nous demandez pas d'être au milieu. Nous sommes des utilisateurs finaux et finalement, nous donnons l'importance à nos recommandations. Mais si vous trouvez, si on parvient à un accord avec eux, c'est parfait. Sinon, tant pis. Nous ne devons pas décider entre le gouvernement américain et le reste du GAC. Alan, est-ce que vous avez une réaction face à cela? Alan Greenberg prend la parole. Oui, d'abord, première, pour revenir à ce que vous disiez sur le GAC, si le Conseil nous dit que nous n'allons pas agir en fonction des recommandations de ALAC, je leur dirai, où est-ce que je vais vous envoyer une recommandation sur laquelle que vous n'utiliserez pas pour prendre votre décision, hein. Donc, je trouverai cela un petit peu inutile. Mais nous parlons ici de principes. En ce qui concerne le problème du Congrès des États-Unis, je pense que le Congrès n'a pas une droit de supervision sur le NTIA ou un droit de contrôle sur ce que fait le NTIA. Mais ils peuvent arrêter le NTIA quand ils font certaines choses. Parce qu'ils ont un contrôle. Et Garth Bruin demande la parole. Selon la Constitution américaine, le Congrès a un contrôle sur tout ce que fait le Congrès aux États-Unis. Je peux reprendre ce que j'ai dit. D'après ce que j'ai compris, le Congrès peut ne rien dire et laisser passer ou bloquer les choses. Sébastien Bachelet prend la parole. Sur ce point-là, quelle est la différence entre le comité responsable du contrôle de l'NTIA et le .com Act. Je m'en arrêterai ici. Je ne connais pas suffisamment l'organisation et la politique aux États-Unis, mais il semblerait qu'il y ait un désaccord entre le comité responsable de la supervision de l'NTIA, ça a été dit par les membres du Congrès qui étaient là, et le .com Act qui voulait faire quelque chose qui n'était pas en ligne avec les personnes qui sont responsables aujourd'hui. Si je comprends bien, certains sont responsables des financements et d'autres sont responsables de la politique et il y a des conflits. Donc ne prenez pas l'un pour opposer l'autre ou oui, prenez l'un pour opposer l'autre ou l'un s'oppose à l'autre, mais en tout cas, ils n'arrivent pas à un accord. C'est ce qui nous intéresse. Bien, merci beaucoup. Holly Rush, dit Olivier Grépin-Leblanc. Holly Rush prend la parole très rapidement. Lorsque nous sommes rentrés dans la réunion du GAC, on devait parler de l'exercice de crise 18 et Bertrand était là, hein, et on a reporté cette discussion. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on allait tout mettre sur la table et on allait rédiger un texte, qu'il y aurait une discussion demain d'une heure et à mon avis, aucune décision va être prise. Olivier Grépin-Leblanc prend la parole. Bien, première donc exercice de simulation de crise numéro 18. Nous n'avons rien de plus à dire au GAC. Et selon nos propres recommandations, nous n'allons pas dire au GAC que faire. Hein. Bon, nous avons maintenant le choix entre différents modèles, la promotion de la confiance du consommateur, et les droits individuels et les droits de l'homme. Alors, les différents modèles. Donc, on va laisser de côté le modèle d'adhésion et donc on va parler du système de désignateur unique ou multiple. Je vais écrire quelque chose là-dessus. Je vais le faire circuler et je vais demander à tout le monde de me dire. Vous voulez, on peut faire le choix du consommateur plutôt rapidement. Merci, Alan. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien. Donc, Garth Bruin, vous avez la parole. Et Sébastien, la main levée? Non. Garth, vous avez la parole. Merci. Garth, président de Neuralo, je pense qu'on est tous d'accord. Sinon, dites-le-moi, la confiance du consommateur fait partie de l'affirmation des engagements, du développement et une des exigences de l'NTIA en ce qui concerne la transmission. Tout le monde est d'accord là-dessus. Si ce n'est pas le cas, dites-le-moi. Donc, la confiance des consommateurs dans la déclaration de mission pour la conformité de l'ICANN. Et hier, il y avait un responsable de la conformité de l'ICANN et je lui ai demandé plusieurs questions. Je lui ai posé plusieurs questions sur la confiance des consommateurs et il a dit que la confiance des consommateurs n'était pas dans sa déclaration de mission Et il a dit que ce n'était pas dans l'affirmation d'engagement. Et il a dit qu'il ne savait pas qu'il appartenait, que c'était un point important dans la mission du CCWG et de l'ICG. Donc je me suis plaint, je lui ai demandé de confirmer cela et il m'a dit que cela ne faisait pas partie de sa déclaration de mission en tant que et que c'est ce qu'il pensait. Donc je suis vraiment très soucieux. Il y a des personnes au niveau du personnel de l'ICANN qui doivent être et à qui on doit rappeler cela. Hein, il y a une tendance à laisser et à mesure qu'on avance et pourtant je pense que c'est un point clé dans mon travail actuel ici et je pense qu'il faut être sûr que tout le monde l'a compris à tous les niveaux. Merci beaucoup Garth. J'espère que nos membres et tous les participants du groupe de travail ont pu suivre la discussion concernant les remplacements de ces statuts. Nous allons commencer par Alan Greenberg et puis nous passerons la parole à Alan Greenberg. Vous avez la parole. Le ALC a deux sur la confiance des consommateurs. Le premier se trouve dans l'introduction. Je ne vais pas détailler, mais l'ICANN a une obligation de la confiance des consommateurs dans l'espace des noms de domaine. Et il est clair que nous n'avons pas de contrôle des noms de domaine et des CCTLD. Il fait référence aussi, dans une plus large mesure, à la révision et associé à la et aussi associé à la confiance des consommateurs. Ça a été transposé dans les statuts proposés. La première phrase a été ajoutée dans la première proposition. Il s'agissait des valeurs centrales. Et cela est la deuxième version de cette partie-là. Ça a été retiré parce qu'il était prévu que la révision de l'ALC était suffisante. ALAC a dit dans ses commentaires que la révision ALC analysait explicitement l'élargissement de l'espace de nom de domaine et ne disait rien, par exemple, sur .com dans la déclaration, dans l'introduction EOC est une déclaration large du nom de l'espace de domaine. Donc, on voudrait retirer cette phrase et je pense que cela reprise. Bien, donc, dans l'ALC, sauf que ce n'est plus une phrase qui se trouve dans la mission et qu'elle va devenir qu'elle va être incluse dans les. Et sur ce point-là, cette question, et je crois que nous le verrons demain, j'ai demandé explicitement qu'une charte soit reanalysée pour être sûre de ne rien oublier et réincluse. J'ai l'affirmation d'engagement devant moi dont on parle, qui se trouve au début du paragraphe numéro 3. Je vais vous lire pour que vous puissiez le suivre. Ce document est un document clé par le ICANN et le NTIA pour s'assurer que les décisions prises concernant la coordination technique mondiale du DNS sont faites dans l'intérêt public et qu'elles sont responsables et transparentes. B, la sécurité, la stabilité, la résilience du DNS. C, promouvoir la compétition, la confiance du consommateur et le choix du consommateur dans le marché du DNS. Et C, faciliter la participation internationale dans le domaine de la coordination technique DNS. Voilà, c'est le paragraphe en lui-même. Il ne parle pas de révision. Les révisions sont dans le paragraphe 9. Ça, c'est le paragraphe 3. C'est de cela que vous parliez, Garth? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Olivier, dit Garth. C'est que la formulation est là et partout aussi. Mon souci est que on ne tous les mêmes points de vue. Christopher Winkelson et ensuite Alan. Christopher, vous avez la parole. Merci. Christopher Winkelson prend la parole. La confiance du consommateur et la question de la compétition semblent signifier différentes choses selon les gens et au niveau du personnel de la CAN aussi. Dire que il y a quelque temps l'année dernière, un groupe de coordination a été créé sous la présidence de Jonathan Zook pour concevoir, préparer un index de métriques ou d'indicateurs à collecter par ou à recueillir par le personnel pour évaluer les performances du programme de nouveau GTLD. Et Ces indicateurs ou ces métriques hein, ont été accordés au sein du groupe de travail. Il a été accordé aussi qu'ICANN allait réaliser des études économiques. Certaines ont déjà été terminées, que ICANN allait donc faire des études économiques pour fournir une série de recommandations qui pouvaient liser pour comparer les performances des nouveaux GTLD selon différents aspects, y compris la compétition, la confiance des consommateurs et le choix des consommateurs. En tant qu'économiste, j'ai constaté que la méthodologie n'est pas très bonne, mais je soutiens le travail qui a été fait. Hein, c'est le mieux qu'on a pu faire en termes de mise en œuvre. Ce n'était pas facile de mettre en œuvre cet engagement de EOC. Donc, ce type de données et d'infrastructures hein, devrait être nécessaire. Voilà. Demain matin, à 8 heures du matin, si vous regardez sur le programme de la réunion, il y a un atelier sur la compétition, la confiance du consommateur, etc. Et comme j'ai participé au travail réalisé l'année dernière et cette année dans ce domaine, je pensais aller me rendre hein, à cet atelier demain matin à 8 heures et y participer. Et je pense que cet atelier pourrait nous fournir des informations concrètes sur ce que fait chacun et quel est donc le programme de cette activité. La prochaine phase, Christopher, je vais vous demander de résumer, s'il vous plaît. Oui, deux mots de plus, c'est important. La prochaine phase qui est annoncée dans la réunion du Conseil avec les registres, les bureaux d'enregistrement, qui a été annoncée aujourd'hui, hein, et le président du Conseil et le président du GAC vont nommer les membres d'une équipe de révision formelle sur la confiance du consommateur et le choix du consommateur et la compétition. Et j'ai déjà indiqué à Alain et à Olivier que si At Large le souhaite, je peux continuer à travailler dans ce domaine particulier. Mais les détails concernant le programme et la façon dont cela est fait et concernant le mandat restent à être définis, sachant que le personnel hein, a un certain don pour écrire le mandat de ces groupes de manière à exclure une grande partie de l'analyse qui devrait être le plus intéressant, le plus important dans le cadre du travail de ce groupe de travail.
Polly Reich au micro. J'allais dire exactement la même chose. Merci beaucoup, Alain Greenberg. Donc, c'est par rapport aux commentaires de Garce. Moi, je ne suis pas particulièrement surpris. Il y a des personnes à l'ICANN qui n'ont pas lu et bien lu les documents. La responsabilité et ces instruments de mesure de la responsabilité, c'est en effet, à la suite de cette modification, cela nous permettra de réagir et d'avoir de nouvelles mesures de prise. Donc, on va en reparler demain de toute façon. Donc, nos membres doivent être conscients de cela. Et je crois que tout le monde est d'accord pour dire que l'on doit avoir le numéro 3 de là aussi. Donc je pense que vous êtes plein de sarcasme, vous n'aviez pas allumé votre micro, Alan. Donc, maintenant, nous allons passer au limogeage éventuel de membres du conseil d'administration de l'ICANN. On a déjà parlé de cela vraiment longtemps, longuement, il n'y a pas si longtemps que cela. Le problème que les membres du conseil d'administration deviennent des politiques, politiciens. Mais on a parlé des méthodes qui ne permettraient pas au SO ou de AC de limoger les membres de leur conseil d'administration rapidement parce que il faut qu'il y ait des raisons pour ces limogeages. Commençons par Sean et Ben Sean. Oui, merci Olivier. Il me semble, et c'est ce que j'ai dit récemment, moi avec les SO et les AC, y compris les membres du conseil d'administration, au niveau individuel, nous avons le CCLVG qui nous propose quelque chose et je crois que la réponse a été positive. Donc je crois qu'ils sont à l'aise avec le processus qui a été proposé Mais également, le fait est que nous avons des membres du conseil d'administration qui sont nommés par les SO et les AC. Moi, je crois que tant que les SO et les AC sont d'accord, ainsi que le conseil d'administration, je crois que ce process est positif personnellement. Ça ne me dérange pas. Merci, Sean. Alan Greenberg. Oui, bien dit. Il y a des gens dans ce groupe et dans d'autres groupes qui sont absolument contre d'une manière très passionnée parce qu'ils pensent que au GNSO, notamment à la GNSO, il y a des personnes qui sont vraiment contre et qui veulent absolument que l'on puisse limoger ces membres du conseil d'administration au niveau individuel. Et au conseil d'administration, en général, ils sont forts. Je crois que on n'a pas besoin de pendant des heures de cela. Je crois qu'on est d'accord. Olivier Crépin-Leblond, ce que j'ai entendu dans le modèle désignateur, c'est comme ça qu'on l'appelle, bien la LAC et toutes les entités qui nomment ces membres du conseil d'administration sont des désignateurs. Les considérer comme des désignateurs, nous nommons des membres du conseil d'administration, des directeurs, et nous avons la capacité de retirer également les membres du conseil d'administration, même si ce n'est pas indiqué dans les statuts, clairement que ça par écrit. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Mais personne n'avait pensé à cela, en fait. Et je crois qu'en fin de compte, c'est véritablement un problème que lorsque l'on renouvelle les membres du conseil d'administration, on peut nommer quelqu'un d'autre. Donc on pourrait avoir le droit, si cela était écrit dans les statuts, mais il n'y a pas de problème dans les statuts qui nous permettent de faire cela, Olivier. Mais vous savez, ça dépend de à quel juriste on parle. Et on a des conseils juridiques qui nous disent A et d'autres qui nous disent B. Donc je ne vois pas de personne prenant la parole, vous le prendre la parole. Donc est-ce qu'on est prêt pour une bière, non? Ah, on veut encore plus de punitions? Bon, alors les droits de l'homme. Droits de l'homme, un thème important. Qui a parlé de cela? C'est Sean. Vous avez la parole. Donc je ne vais pas... le groupe de travail sur les droits de l'homme de très près. Je sais qu'il y a un statut qui a été atteint, un niveau qui a été atteint après discussion. Il y a un texte qui a été débattu sur les droits de l'homme. Mais néanmoins, lorsque l'on a lancé ce groupe de travail, j'avais une inquiétude. Les droits de l'homme, les problèmes de droits de l'homme, et moi je suis pour les droits de l'homme évidemment, ce n'est pas là le problème, oui, tout à fait civil, mais nous faisons de la coordination technique à l'ICANN, c'est notre rôle. Nous travaillons à une communauté qui s'occupe de numéros, de chiffrage. Et nous n'avons pas de provision de ce type dans nos statuts, clause sur les droits de l'homme dans nos statuts, que je sache. Et je ne crois pas que si nous commençons à introduire ce type de thème et de sujet au plus haut niveau, on n'a pas d'accord sur la communauté. On va créer des problèmes, me semble-t-il. Le rôle de l'ICANN n'est pas celui-là. On va interpréter les choses différemment. Ça va prêter à l'occasion. Ce n'est pas dans nos statuts. Je ne vois pas comment on peut éviter cela. Et ma motion, je ne sais pas si c'est une motion, mais moi, je crois qu'on en parlait un petit peu, Sean. Oui, j'ai des points de vue également. Donc, commençons avec Harold Darcos. Je vais m'exprimer en espagnol.
Bien. Harold Arcos, je voulais apporter un peu et dire ce que nous avions dit dans la liste de diffusion en question de droits de l'homme. Ce qu'il faut faire, c'est introduire dans les statuts. D'après ce que j'ai compris, il y avait une discussion à propos de une question légale, hein, liée aux droits de l'homme et à la question telle qu'elle est en Californie, parce que apparemment il y avait des gens qui étaient contre cette proposition. Mais les aspects que nous avons encouragés ou proposés ou soutenus au niveau d'ALAC, c'était au niveau de l'Amérique latine, c'était l'inclusion dans les statuts de ce thème, puisqu'on est habitué à comprendre ou à concevoir que la question des droits de l'homme et n'est pas seulement une question des gouvernements au sein des États. Et aujourd'hui, si on veut avoir une vision de futur, on devrait penser à une fondation ou une corporation qui serait responsable de ces relations avec les utilisateurs finaux, et c'est-à-dire nous. Donc je considère que c'est un aspect très important et que l'ALAC devrait soutenir cette position. Hein. Et bon, je sais qu'il y avait un problème au niveau du domicile fiscal de la Californie, mais je pense que nous devrions encourager cette proposition, la soutenir.
Merci beaucoup, Harold. Olivier Crépin-Leblond au micro. Il y a un groupe de travail sur les droits de l'homme, Payalican. J'en ai fait partie à un moment. Léon Sanchez est maintenant... et qu'il y aura des réunions, pas demain, je crois, ou jeudi, demain. Personnellement, la communauté at large n'a jamais été contre. On n'a pas beaucoup parlé, mais les rapports, et c'est qui est là qui le regarde en ce moment, a été publié récemment, et je crois que cela va être présenté à cette deuxième réunion. Il me semble que la responsabilité de l'ICANN de respecter les droits de l'homme. Il y a eu une ébauche de ce document qui avait été présenté par le président actuel du CAC. Je n'aurais vu qui étaient les auteurs de cette ébauche de document, mais il y a eu bien sûr Nigel qui y a travaillé. Wolf Ludwig au micro. C'est une initiative du Conseil de l'Europe. Et il y avait Thomas Schneider, Lee Ebert et Monica. Merci. Et donc le Conseil de l'Europe, en effet, a beaucoup travaillé ces débats du GAC et il y avait un ordre du jour pour cela. Donc nous avons commencé avec Holly, il est tard, excusez-moi. Holly Reich tout d'abord. Donc demain c'est à 12h45 la réunion jusqu'à 13h30. À la salle Lifia est-elle là? Nous avons eu une réunion d'information au sujet des droits de l'homme à l'ICANN. Et je crois que c'est les droits à la vie privée, à l'anonymisation. Ça, c'est important sur l'Internet et pour l'ICANN. Donc, les systèmes de procuration, systèmes de vie privée, qui respecte la vie privée. Ça n'a pas été plus loin que cela. Donc cette réunion n'était pas à l'ordre du jour. Merci Holly, Olivier, Alan Greenberg, vous avez la parole. Je peux résumer la situation. Il n'y a pas de désaccord. On peut faire référence dans les statuts de l'ICANN. Il y avait plusieurs options. Et cela dépendait un petit peu. Il y avait certains qui citaient des documents. Et beaucoup de personnes pensaient qu'on ne devait pas citer de documents précis. Les documents changent avec le temps. Et c'est une bonne manière de procéder. La seule différence, je crois, à ce niveau, je crois que ce sera la version la plus simple qui va l'emporter. Le seul problème pour certaines personnes, et moi, je suis d'accord avec cela, si une déclaration globale que nous devons respecter à l'ICANN les droits de l'homme et que nous avons un IRP, un processus indépendant de révision, permet à un groupe de juristes ou de panélistes de remettre en question si, dans certains cas, l'ICANN a violé les droits de l'homme de quelqu'un. Donc, il y a une violation des statut, si des droits de l'homme ont été violés parce qu'on n'a pas donné un TLD ou un nom de domaine, eh bien là, à ce moment-là, voyez-vous, s'il y a eu un problème de violation des droits de l'homme, il est possible de modifier la politique d'affection des TLD. Donc, si... on ne laisse pas enregistrer point Greenberg. Eh bien, peut-être qu'on a violé mon droit, mes droits de l'homme, je ne peux pas utiliser mon nom. Eh bien, il y a un précédent et ça pose un problème juridique. Et je crois qu'on a besoin de plus de spécificité. Pourquoi est-ce que cela s'applique? Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir une déclaration très large et qui est spécifique? Je ne pense pas. Donc, ce concept, car ce micro, l'ICANN investit dans une entreprise qui a des enfants qui travaillent dans l'esclavage, qui travaillent scandaleusement. Est-ce que ça peut poser un problème aussi à ce niveau-là? Oui, merci, Gars. Olivier, oui, vous parlez de ce rapport. Je n'ai pas encore eu la possibilité de le lire, ce rapport. Je crois qu'on va en parler. Et je vous conseille d'aller à cette question, de poser la question lors de cette réunion. Donc, il faudra prouver que vous avez été, vos droits de l'homme ont été violés. Pas qu'une entreprise ayant investi malencontreusement connaîtra des problèmes. Mais je ne suis pas un juriste, hein, vous savez. Et sûrement pas un juriste de Californie. Donc, oui, merci beaucoup, Alan. Olivier, donc, vous parlez toujours, bien entendu, de l'élément droit de l'homme du CCWG. C'est ce dont on parle et je me référais à la publication, à l'article 19, travail du Conseil de l'Europe en rapport avec les droits de l'homme. On ne sait pas encore exactement comment on va l'utiliser, Sean. Et ensuite, nous aurons Chris Wilson et il va falloir qu'on lève la séance. Annetta. Donc, on va commencer avec elle parce que elle était avant tout le monde. On va lui donner la parole. Oui, Anita Mühlberg. Je suis un petit peu surprise de ce débat parce que c'est l'ALAC qui a poussé cela et qui a coopéré avec le GAC en concerne cette thématique. On a beaucoup parlé de le respect de la vie privée et de l'anonymisation. Et il me semble que nous étions très contents que le GAC commence à se préoccuper de cela. Et je pense que, si vous ne me connaissez pas, j'étais un moment à la tête de l'ALAC. Et donc je suis un petit peu surprise. Je crois qu'on devrait être très content qu'on s'engage dans la direction d'un respect des droits de l'homme. Olivier Crépin-Leblanc, oui. Donc, en effet, on n'est pas tous synchronisés, mais c'est bien d'être synchronisés par rapport à cela. Sean, j'aimerais tout d'abord dire que les documents ont été envoyés à la liste ALAC. Vous pouvez lire cela. Et j'aimerais faire une distinction. Quel est le soutien et le travail de l'ALAC qui a été effectué auparavant? Je ne connais pas le raisonnement qu'il y avait derrière cela. Les questions de droits de l'homme et les questions de respect de la vie privée, je crois qu'il faudrait clarifier. Moi, je soutiendrai tout à fait. Ça fait partie des droits de l'homme, ce respect de la vie privée, c'est ça. Lorsque l'on parle d'anonymisation, il me semble que ça fait partie des droits de l'homme. Mais c'est très large, les droits de l'homme. Soyons prudents. Plus la mission de l'ICANN est large, moins elle est... plus le conseil d'administration de l'ICANN va avoir des responsabilités accrues et avoir des responsabilités fiduciaires également. Ça, c'est un petit peu dangereux parce qu'il y a toujours l'interprétation, vous savez, des textes. Il peut poser problème à l'avenir. Merci beaucoup, Sean, Olivier Crépin-Leblanc. Bien, j'ai fait partie de beaucoup de ces débats à l'IGF, IGF régionaux, et beaucoup de séances de l'ICANN. On ouvre une boîte de Pandore et nous pourrions en parler pendant des heures. Et si vous ne voulez pas dîner, eh bien, vous pouvez continuer ce débat. Mais moi, je crois qu'après Christopher, on va clore le débat et la séance. Est-ce qu'on n'a pas vraiment de consensus sur les droits de l'homme? Évidemment, en ce qui concerne la responsabilité, donc je sais qu'on y travaille, mais je note, comme Annette a mentionné, que l'ALAC a beaucoup cela, soutient toujours évidemment les droits de l'homme, mais qu'on n'a jamais voté formellement là-dessus. Je ne crois pas me venir de cela. Ai-je raison, Alan? Quand Annette était à la tête de la LAC, mais moi je ne m'en rappelle pas. Je ne sais plus. Je ne me rappelle pas avoir voté sur les droits de l'homme. La position sur les droits de l'homme a varié selon les membres de la LAC. Donc, je contre, mais il y a des gens qui sont plus ou moins pour. Je ne me rappelle pas un vote. Wilkinson et Chris Wilkinson, une nouvelle fois, très rapidement. Attention à la présence de problèmes possibles. Dans le début des débats sur les droits de l'homme au CCWG, la question a été soulevée. Et si vous pensez que les droits de l'homme, c'est simple, est-ce que c'est les personnes, les droits de l'homme, c'est très complexe. Ça peut être le droit des individus, les droits de l'homme, le droit de l'humanité. Il faut définir de là qu'il faut être très prudent. Et voilà qu'on nous éteint la lumière. Donc, les employés de l'ICANN, qu'en est-il des employés de l'ICANN? Les droits à l'emploi, les problèmes d'emploi, les problèmes de ressources humaines des employés de l'ICANN. Il y a beaucoup d'argumentaires à ce niveau. Les employés de l'ICANN dérivent du fait que l'ICANN est un prestataire de services auprès du gouvernement américain. Il y a une relation contractuelle entre l'ICANN et le gouvernement américain, et s'il n'y en a plus, eh bien, les droits des employés de l'ICANN, qu'en advient-il? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous voyez que les questions sont vastes. Merci beaucoup, Christopher Olivier. Je note que pour la transition IANA dans le processus, la proposition de l'IETF et d'IRIR était assez claire. Et après vous avoir entendu, et après avoir entendu le CCWG, eh bien, je crois qu'on se préoccupe de tout et on pense à tous les problèmes possibles. Wolf Ludwig, vous pouvez conclure le débat, s'il vous plaît. Puis Alan, bien sûr. Oui, Wolf, commentaire de clarification. Je me rappelle au début, il y a bien longtemps, notre travail, j'avais suggéré une stratégie pour la première année, collaboration avec le Conseil de l'Europe, avec les institutions européennes. J'avais proposé cela. Et il y avait les droits de l'homme qui étaient mentionnés. On a failli me tuer. Nick Ashton-Hart voulait vraiment pas content du tout. Il voulait que cela soit paix. Et moi, j'ai insisté. Et j'ai dit que je me moque de ce que vous pensez. Pour nous, Européens, c'est quelque chose d'important. J'ai insisté pour que cela reste dans les textes. J'ai parfois été très frustré, vous savez, à l'ICANN. Ça a toujours été facile. Mais un de mes grands moments était le suivant. Lorsque le Conseil de l'Europe, dans un document avec Thomas Schneider, soudainement a été reconnu par d'autres groupes, c'était véritablement un grand progrès. Merci beaucoup. Merci Wolf. Alan Greenberg, pour conclure. Donc, nous sommes véritablement à la fin de notre réunion et je ne sais pas comment vous voyez les choses. Nous avons eu une longue intervention hier au CCWG sur on ne veut pas se débarrasser d'un directeur sans cause parce qu'on ne veut pas virer un employé sans qu'il y ait des raisons à cela. Sinon, on est poursuivi en justice, n'est-ce pas? Il y a des procès. En Californie, vous savez, on peut quand même limoger un employé sans véritable cause. Un État américain, c'est un petit peu comme ça. Donc, je ne sais pas si ça vous amuse ou ça vous horrifie. Eh bien, sur ces mots, nous allons clore la réunion et nous allons remercier nos collègues également du CCWG qui maintenant ont une petite idée de la direction à emprunter. Et la séance est désormais levé, mais il y a encore une séance. Nous allons remercier les interprètes et le personnel, il est tard. Bonsoir.